Vous écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Avec moi pour le présenter, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous.
Dans l'actualité, la France qui adopte de nouvelles mesures contre le Covid-19. À partir de samedi, le couvre-feu débutera à 18h dans l'ensemble du pays. L'annonce a été faite en fin d'après-midi par le Premier ministre.
Nous irons ensuite à Philadelphie aux États-Unis. Un reportage à suivre auprès de ces Américains. Des Américains qui espèrent bien que Donald Trump sera écarté du pouvoir. Le dirigeant est actuellement visé par une nouvelle procédure de destitution.
En Belgique, une enquête a été ouverte après la mort d'un jeune homme lors de son interpellation par la police. L'affaire a provoqué des émeutes hier. 3 manifestants ont été arrêtés.
Et puis enfin, en handball, coup d'envoi du Mondial 2021 pour les Français. Les Bleus affrontent en ce moment la Norvège.
Le journal en français facile.
En France, le couvre-feu débutera à partir de 18h dans l'ensemble du pays, à compter de samedi.
Cette mesure durera au moins 15 jours. Elle a été annoncée aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex. L'objectif des autorités françaises est de freiner les contaminations au nouveau variant anglais du Covid-19. Chaque jour, 200 à 300 personnes sont déclarées positives à cette nouvelle forme du virus. Jusqu'à présent, en France, le couvre-feu débutait à 20h. Seuls 25 départements étaient sous couvre-feu à partir de 18h. Et dans ces départements, justement, l'annonce de Jean Castex fait polémique. Les habitants estiment que cette mesure n'est pas si efficace pour lutter contre le Covid-19. Le Premier ministre français a donc expliqué son choix aujourd'hui lors d'une conférence de presse.
Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18h le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2 voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains. Dans son dernier avis, reçu hier soir et qui sera rendu public très rapidement, le Conseil scientifique a du reste confirmé l'utilité du couvre-feu dans la lutte contre la pandémie. Alors que la reprise épidémique était concentrée fin décembre sur certains départements, la circulation virale concerne désormais tout le territoire. Si l'incidence reste plus élevée dans l'est du pays, là où le couvre-feu anticipé s'applique déjà, c'est désormais dans l'ouest de la France que la dynamique est la plus forte.
Le Premier ministre français Jean Castex, des propos recueillis par Marie Cazadebé. Et autre mesure annoncée par le Premier ministre français, les personnes atteintes de maladies graves pourront se faire vacciner à partir de lundi. Selon Jean Castex, 700 centres de vaccination vont ouvrir leurs portes. Jusqu'à maintenant, seules les personnes âgées de plus de 75 ans pouvaient recevoir en France le vaccin contre le Covid-19.
Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté la mise en accusation de Donald Trump pour incitation à la violence.
Oui, cela signifie que les élus de la Chambre ont voté l'acte d'accusation qui détaille, qui explique ce qui est reproché au président américain sortant. En l'occurrence, il est accusé d'être responsable de l'invasion du Capitole par ses partisans au début du mois de janvier. Il y a peu de chances, cependant, que Donald Trump soit vraiment destitué. Mais qu'en pensent les Américains ? Eh bien, il y a d'un côté ceux qui soutiennent le dirigeant, ses partisans, et de l'autre ceux qui pensent que ce procès est nécessaire. Reportage de nos envoyés spéciaux à Philadelphie, Stéphanie Schuller et Bertrand Hackler.
En ce mercredi après-midi, alors qu'à Washington, la Chambre des représentants est en train de voter la mise en accusation de Donald Trump, Oprah, Kylie et Sarah visitent le lieu le plus emblématique de Philadelphie, l'Independence Hall, où ont été signées la Déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis.
Que les partisans de Trump aient pu faire irruption dans le Capitole démontre que les fondements de notre pays sont moins stables que nous le pensions. Mais on fait de notre mieux pour y remédier. Ces actes doivent être punis et avoir des conséquences. conséquences. Et non, on n'a pas simplement passé l'éponge.
Jusqu'ici, il s'en est toujours tiré. Mais s'il s'en sort cette fois-ci, cela créera un précédent pour un autre qui lui succédera un jour et qui fera pire encore.
Pensez-vous qu'une procédure de destitution soit la bonne chose à faire?
C'est une manière de protéger la démocratie. Je pense que l'attaque terroriste à Washington a été atroce et qu'il faut prendre des mesures pour empêcher que cela ne se reproduise. La mise en accusation du président est un pas dans la bonne direction.
Et Sarah pense aussi à la prochaine élection présidentielle.
S'il n'est pas destitué, il peut se représenter en 2024. Et Donald Trump risque de revenir pire que jamais. Qui sait?
Stéphanie Schuller et Bertrand Éclair, Philadelphie, RFI.
Et toujours aux États-Unis, Clémentine, le nouveau président élu, Joe Biden, dévoilera lui son plan de relance jeudi soir.
Joe Biden va présenter ses différentes mesures économiques pour tenter de sortir le pays de la crise. Des millions d'Américains sont actuellement au chômage. Le nouveau président américain dit vouloir aider davantage les familles et les petites entreprises. Joe Biden prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier.
Trois manifestants ont été arrêtés en Belgique, Clémentine.
Leur arrestation fait suite aux violences survenu hier lors d'une manifestation à Bruxelles, la capitale. Les manifestants dénonçaient la mort d'Ibrahima Barry, un jeune homme de 23 ans. Il a perdu la vie samedi dernier lors de son interpellation par des policiers. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Le récit de notre correspondant en Belgique, Pierre Benazé.
Samedi dernier, à la tombée de la nuit, lors de la dispersion d'un rassemblement interdit pour cause de Covid à Bruxelles, Ibrahima Barry a été appréhendé après s'être enfui en courant. Arrivé au poste de police, il s'est évanoui et selon l'avocat de la famille, il aurait alors été laissé inconscient au sol pendant au moins 5 minutes. Le rapport d'autopsie évoque un arrêt cardiaque, mais cette explication n'a apparemment pas convaincu. Un demi-millier de manifestants se sont rassemblés ce mercredi pour protester. La manifestation a débordé, on a assisté à de véritables scènes d'émeute avec tentatives d'incendie d'un commissariat et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, certains atteignant même la voiture du roi des Belges dont le convoi passait par hasard. Ce jeudi, une instruction a été ouverte pour homicide involontaire suite à la mort d'Ibrahima Barry et le commissaire général de la police fédérale belge préconise que tous ces policiers en intervention disposent désormais d'une caméra individuelle. Il n'y avait plus eu de manifestation notable à Bruxelles depuis le rassemblement Black Lives Matter en juin pour la mort de George Floyd, une manifestation qui s'était soldée par d'importants débordements. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et puis en sport, l'équipe de France de handball affronte ce soir la Norvège.
Le match a commencé il y a une demi-heure au Caire, en Égypte. Le score est pour l'instant de 13 partout. C'est le début pour les Français du Mondial 2021. Les Bleus ont été 6 fois champions du monde, 2 fois champions olympiques, 3 fois champions d'Europe. Mais cette fois, ils ne font pas partie des favoris. Ils avaient été éliminés dès le premier tour du dernier Euro. Et l'équipe de France semble aujourd'hui être redevenue une équipe ordinaire, notamment à cause de la crise sanitaire, la crise du Covid-19, qui a privé les Bleus de plusieurs matchs cette année. Explication de Christophe Diremzian.
Rarement les Bleus n'auront eu aussi peu de certitudes en entamant un championnat du monde. Près d'un an sans jouer, 2 matchs décevants ces derniers jours face à la Serbie en éliminatoire du prochain Euro. Le chantier de la relance est loin d'être achevé et le sélectionneur Guillaume Gilles a eu peu de temps pour le faire avancer.
On sort d'une préparation tronquée avec une situation exceptionnelle. Le projet initié au niveau du jeu nécessite du temps pour s'améliorer, pour être intégré par l'ensemble des athlètes. Et ce début de compétition est forcément important pour lancer cette machine-là avec l'idée de continuer à grandir.
Mais le rodage va devoir vite accélérer, car les Français s'attaquent d'entrée à des Norvégiens vice-champions du monde en titre. Pas simple quand on est privé de son maître à jouer, Nicolas Karabatic, mais les tricolores ne sont dépourvus ni de joueurs d'expérience, ni d'ambition, rappelle le gardien Vincent Gérard.
Quand on a 10 joueurs qui ont joué le Final Four de cette année en Ligue des Champions, je crois pas qu'on puisse se dire, oui, ben on va y aller pour battre l'Autriche, puis on verra ce que ça donne. Effectivement, on n'est pas les grandissimes favoris comme ont pu l'être nos prédécesseurs. Néanmoins, on a quand même des armes à faire valoir. Et croyez-moi que si un seul des joueurs ici se disait qu'on n'avait pas la possibilité d'aller en demi-finale, on n'aurait pas tous pris sur notre temps pour pouvoir être performant et travailler dans les meilleures conditions.
Troisième du mondial il y a 2 ans, au Danemark, l'équipe de France ne vise pour l'heure pas aussi haut, mais une nouvelle désillusion renforcerait le doute sur sa valeur alors qu'elle n'est pas encore qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Explication signée Christophe Diremzian. Et après la Norvège, les Français affronteront l'Autriche et la Suisse qui remplacent à la dernière minute les États-Unis à cause des nombreux cas positifs au Covid-19 enregistrés dans l'équipe américaine de football. Il est 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Très belle soirée à l'écoute de RFI.